Donc bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez correctement.
Alors, on t'entend très bien.
D'accord, super. Je vais partager mon écran immédiatement avec un petit spoiler, pardon. Donc, alors, normalement, c'est bon. Normalement, vous voyez le diaporama. Alors, donc, merci de me donner la parole. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui, enfin ici, sur cette plateforme virtuelle. Donc, je suis docteur en urbanisme. J'ai fait ma thèse sur la gestion des eaux pluviales et des cours d'eau dans l'agglomération parisienne depuis les années 70. Et ce que je vous propose ici, c'est un petit regard historique sur la gestion des eaux pluviales en milieu urbain et particulièrement dans l'agglomération parisienne pour amorcer plusieurs discussions, en fait, pour amorcer la discussion sur l'expertise qui sera certainement reprise par Marie-Lou Dufournet, celle sur la gestion patrimoniale qui sera demain abordée par Frédéric Cherki, et aussi celle sur les modèles urbains qui sera initiée par Laure Cormier. Donc voilà, c'est une présentation qui amorce beaucoup de choses et aussi qui traite de l'hybridité, parce que c'est un sujet très important au milieu urbain, je pense. Donc je vais vous présenter trois modèles, trois ingénieries successives donc, que vous connaissez certainement un peu, mais en essayant de vous, donc depuis le 19e siècle, en essayant de vous donner un regard un peu, enfin de mettre en perspective en fait l'environnement, comment elle traite de l'environnement, les sciences qu'elles utilisent, les dispositifs techniques qu'elles mobilisent et le modèle urbain qui est associé à ces aménagements. Donc on va vraiment essayer de visualiser ces infrastructures successives et de voir comment elles s'imbriquent. Donc voilà, c'est pas vraiment l'histoire de la
Oui,
discussion tournée
bonjour,
sur la
je suis
nature.
Cohen. Pareil, j'ai appelé tout à l'heure pour un problème de
Bonjour
journaliste
Monsieur
qui
Philippe.
m'aide autour de.
Monsieur, on vous entend. Merci. Alors,
Oui,
donc le
est-ce que
premier modèle, vous
je
m'entendez
pourrais couper
correctement?
votre micro pour les personnes qui n'interviennent pas, s'il vous plaît?
Donc, le premier modèle d'ingénierie que je présente, c'est l'hygiénisme qui aborde un problème environnemental qui est celui de la surmortalité urbaine. Donc, au 19e siècle, au moment de la révolution industrielle, il y a une mortalité très forte en ville et les ingénieurs s'intéressent à ce problème et proposent comme solution la mise en circulation des eaux. Donc, là, on voit Paris avec les égouts collecteurs en 1872. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se débarrasser des eaux stagnantes qui sont considérées comme responsables de la surmortalité par leur méphitisme, les exhalaisons, pardon, qu'elles dégagent seraient pardon, responsables des maladies. Et donc, il y a une mise en circulation des eaux. Les sciences qui sont mobilisées, ce sont les sciences physiques. Donc là, on voit le découpage en bassins versants. Donc, l'eau se déplace de manière gravitaire. Et l'idéal urbain qui est proposé dans tout ça, c'est un idéal de ville sèche, minérale, abiotique, donc avec ces chaussées minéralisées, les caniveaux qui amènent l'eau vers les réseaux et qui les amènent jusqu'au cours d'eau. Et ce modèle repose aussi sur une autre idée qui est plus ancienne et qui est celle du principe auto-épurateur des cours d'eau. Donc les cours d'eau sont capables de gérer, de résorber en fait les pollutions qui sont amenées, qui ne sont pas encore considérées comme des pollutions à l'époque. Ce premier modèle d'ingénierie, il est remis en cause parce que le chercheur Bernard Baraquet appelle l'ingénierie environnementale, qui traite en fait du problème, cette fois, de la dégradation de la ressource en eau, de la pollution des cours d'eau. Et donc, il y a plusieurs types de réponses à ce problème. Il y a le traitement donc, par les stations d'épuration qui sont en fait positionnées entre les effluents urbains et la ressource. Et donc, on produit cet espace tampon qui permet de préserver la ressource. Et ces stations, elles mobilisent donc de la chimie, la biologie, donc des sciences nouvelles relativement à l'hygiénisme. Et donc, il y a une rupture avec le principe d'auto-épuration des cours d'eau qui doit être, d'une certaine manière, assistée ou complétée par ces stations. La deuxième manière dont le génie environnemental va intervenir, c'est par l'hydrologie urbaine. Parce qu'en fait, les stations d'épuration ne suffisent pas pour plusieurs raisons. L'une est que dans l'après-guerre, il y a une expansion urbaine très forte qui amène en fait de nouvelles eaux ruisselées, on va dire, vers les réseaux, qui ont été dimensionnées pour des tailles de bassins versants précises, et donc qui se retrouvent en quelque sorte sous-dimensionnées. Donc l'infrastructure, par sa rigidité, s'avère incapable de faire face au développement urbain dans la deuxième partie du XXe siècle. Et puis le deuxième problème, c'est qu'en fait, ces stations d'épuration sont beaucoup court-circuitées donc par les déversoirs d'orage ou par les mauvais branchements dans le cas des réseaux séparatifs. Donc, ce que propose en fait l'hydrologie urbaine, c'est de revenir sur deux phénomènes. D'une part, le déplacement de l'eau dans les bassins versants. avec donc on voit sur ce schéma en haut l'urbanisation, en bas le respect des objectifs de qualité des cours d'eau, et au milieu un logigramme qui présente un peu toutes les étapes de circulation des eaux. Et donc l'hydrologie urbaine va essayer d'intervenir pardon, sur le bassin versant. Et l'autre aspect que l'hydrologie urbaine essaye d'aborder, c'est la caractérisation fine de la météorologie locale. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de comprendre les phénomènes qui se produisent dans les bassins versants urbains en ville. Et il y a une rupture forte qui date de la fin des années 70 avec un autre présupposé de l'hygiénisme qui est de se débarrasser de l'eau stagnante en ville. Donc, l'hydrologie urbaine réintroduit de l'eau stagnante en ville. Donc, ça, c'est à la fin des années 70. Et donc, ce qu'elle propose en termes d'aménagement, alors, ça va être des ouvrages qui sont parfois présentés comme inspirés du milieu rural, avec les systèmes effossés par exemple, ou les petits bassins de retenue, etc. Et donc on voit en haut en fait trois bassins versants et trois manières de positionner un bassin de retenue par rapport au réseau. Donc c'est une sorte de trois feuilles, des ouvrages tels les tranchées filtrantes en bas à gauche, et puis à droite tout un tas de petits systèmes qui permettent de ralentir, de retenir l'eau dans le bassin versant avant son arrivée au réseau. Donc ce système-là, il est toujours quand même basé sur les sciences physiques et il est toujours pensé relativement au réseau d'évacuation. Donc même si on temporise cette évacuation, elle est toujours fondamentale dans la gestion de l'eau. Le modèle urbain qui est rattaché à cette hydrologie urbaine, alors là, je vais présenter un projet qui est un peu avant-gardiste. C'est difficile de généraliser, mais ce qui se passe à Marne-la-Vallée, où les bassins de retenue sont mis en œuvre dans les années 80, c'est qu'on propose en fait de prendre le contre-pied de l'urbanisme moderniste qui repose beaucoup sur la voiture, la circulation. Et aussi, on propose de recomposer un cadre de vie grâce à cette eau stagnante qui est réintroduite en ville et qui est en fait une occasion paysagère. Donc en fait, l'habitat ici dans le Val-Maubuée, donc à Marne-la-Vallée, dans la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, est distribué autour de petits bassins de retenue qui ponctuent un rue qui préexistait à l'urbanisation et qui permet en fait d'organiser les circulations piétonnières. Donc ça, c'est des trames vertes et bleues, mais qui sont pensées d'abord de manière paysagère. Cependant, à cette époque, donc à Marne-la-Vallée et puis aussi sur les berges des cours d'eau qui s'érodent, on a quand même l'arrivée de l'ingénierie écologique dont a parlé Frédéric, alors avec le génie végétal principalement sur les berges pour contrer l'érosion. Donc je vais pas revenir sur les principes du génie végétal. Et à Marne-la-Vallée, c'est l'utilisation des chaînes trophiques par exemple pour maîtriser le développement des nuisibles comme les moustiques ou la création de milieux pour créer des écosystèmes qui permettent de maîtriser la qualité de l'eau, parce que l'eau stagnante est toujours l'objet d'une peur en milieu urbain, et donc on cherche à la maîtriser grâce à des milieux aquatiques vivants. Et donc ce qui est intéressant ici, c'est de voir quand même que même si l'ingénierie écologique émerge en ville avec le génie végétal et les bassins de retenue, elle reste quand même inféodée, comme on le voit ici avec un ABAC, aux sciences de l'ingénieur classique, donc physique, donc hydraulique, hydrologie. La vraie rupture en fait pour l'ingénierie écologique, ça va être plutôt la directive cadre européenne sur l'eau de 2000, qui inscrit dans le droit la valeur des fonctions des écosystèmes aquatiques. Donc, je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet que vous connaissez certainement très bien, parce que là, on entre dans une partie de l'histoire qui est souvent mieux connue. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que avant la remise en... Alors, il y a d'autres ruptures qui sont celles, évidemment, des rapports du GIEC depuis les années 90, et puis surtout de l'IPB, du rapport de IPBES, pardon, sur l'érosion de la biodiversité, qui pointe la responsabilité du milieu urbain dans cette érosion et la disparition des milieux aquatiques liés à l'artificialisation des sols, notamment au milieu urbain. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir, donc, par exemple ici avec l'îlot de chaleur urbain donc de 2003, mais c'est un phénomène récurrent, il se présente partout, que c'est le milieu urbain lui-même qui est incriminé, c'est le milieu urbain lui-même qu'il faut transformer et non plus seulement l'infrastructure. Donc on entre vraiment dans la remise en question non plus seulement des réseaux et de l'évacuation de l'eau, mais aussi de la manière dont on conçoit la ville, dont on gère les sols en ville, dont on gère le bâti, dont on organise le bâti dans les bassins versants. Donc c'est une remise en question qui est plus fondamentale. Et donc les modèles qui sont proposés enfin, les aménagements qui sont proposés, ça va être plutôt être des milieux aquatiques, donc avec cette idée de co-bénéfice qu'on a montré Frédéric, avec aussi l'idée qu'on va pouvoir traiter des phénomènes qui émergent enfin, depuis un petit moment, mais qui sont mieux connus et qui sont des gros enjeux comme ceux des micropolluants, de la gestion de la pollution diffuse. Et donc, on va prêter à ces milieux aquatiques, milieux naturels urbains, les zones urbaines, tout un tas de fonctions, comme celle de la recharge des nappes phréatiques, de la gestion de la pollution atmosphérique, de mon cadre de vie, de la gestion des risques et surtout du soutien de la biodiversité. Mais le modèle urbain derrière tout ça, il est quand même assez peu développé. On va souvent se focaliser sur ces milieux sans vraiment se demander comment, et à différentes échelles, on peut faire évoluer la ville plus globalement. Ceci pose vraiment question parce que, donc là, je vous propose quatre petites cartes qui rendent compte d'un recensement que j'ai effectué pour ma thèse entre 2016 et 2018 sur les techniques alternatives existantes, donc techniques alternatives de l'hydrologie urbaine, puis avec tout ce qui a été apporté par l'ingénierie écologique ensuite dans l'agglomération parisienne, donc depuis les années 80. Et on se rend compte que quand même les ouvrages enterrés, donc qui sont principalement des excroissances de réseaux, c'est-à-dire des espaces de stockage avant un réseau pour une restitution différée au réseau, mais qui n'ont aucune valeur pour la biodiversité, pour le cadre de vie, pour la gestion du climat urbain, pour la gestion des risques ou pour l'adaptation au changement climatique, qui a un gros volet aussi, ce que j'ai oublié de dire, pardon, c'est que, je suis désolée, c'est dans le désordre, c'est que la dernière rupture de l'ingénierie écologique, elle repose aussi sur l'idée que les modèles, la modélisation reposant sur la physique et les modèles de l'ingénierie classique sont trop rigides, parce qu'on arrive à un moment où ce qu'on a conçu est basé sur des statistiques et une connaissance des événements passés qui est devenue caduque. Et donc, tous ces ouvrages de l'ingénierie écologique ou les solutions fondées sur la nature sont des ouvrages d'adaptation parce qu'ils sont plastiques, parce qu'ils sont résilients et parce qu'ils ne reposent pas sur un dimensionnement très fixe. Mais ce que je pointe ici du doigt, donc, c'est que la mise en œuvre est quand même très, très difficile. Donc là, on voit qu'il y a une grande, grande partie de bassins enterrés. Donc, je ne vais peut-être pas commenter trop longuement la carte parce que mon temps passe. Mais donc là, c'est des cartes qui sont faites à la maille, donc maille de 86,6 hectares, et où sont sommées les techniques alternatives qu'on a réussi à recenser. Et on voit que les ouvrages enterrés sont vraiment majoritaires et que même les ouvrages ouverts, donc c'est-à-dire à ciel ouvert et non végétalisés, sont aussi très présents. Et donc, une difficulté à mettre en place des ouvrages ouverts végétalisés. Donc, je finirai juste par poser trois questions pour la discussion. Donc, je soulignerai peut-être l'importance de produire un nouveau modèle urbain qui repose sur une connaissance des écosystèmes. Et je pense que l'importance de sortir en fait du seul dispositif et de la solution, mais de penser à un niveau plus large, elle est très bien exprimée dans la définition des solutions fondées sur la nature par le terme de paysage. La deuxième question que je poserai, ce serait la place de l'expertise dans la construction de ces nouveaux paysages. Alors, ça a été posé juste avant, la co-construction avec les habitants. Il s'avère que si on veut changer l'espace urbain, les usagers, mais aussi les gestionnaires de l'espace urbain, sont fortement investis dans ces évolutions, puisque ce sont les espaces qu'ils pratiquent, qu'ils vivent et auxquels eux donnent du sens. Donc, quelle est la place de l'expert, de l'écologue ou de l'ingénieur dans ce qui doit être maintenant une contribution collective? Et enfin, toujours dans cet esprit, quelle est la capacité des villes à gérer, à prendre en charge ces nouvelles approches? Là, par exemple, ce recensement que je vous ai présenté, il a fait l'objet de recherches, mais Frédéric Cherki en parlera. La gestion patrimoniale des ouvrages décentralisés n'est pas aisée pour les collectivités qui ont du mal en fait, à connaître leur patrimoine. Donc, il y a des enjeux très, très forts à discuter avec tous ces acteurs. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour répondre aux questions.
Merci beaucoup pour cette présentation. Du coup, si vous avez des questions, ce que je viens d'écrire dans le chat, hein, n'hésitez pas à les écrire. Hop. En attendant qu'on ait des questions, je pense qu'il y a des gens qui vont écrire. Quels sont les. Donc, tu as décrit un peu l'évolution de différents courants. J'imagine que ce n'est pas fait sans heurts avec des. Dès qu'on allait sur des changements de paradigme, c'est compliqué. Quels étaient les principaux freins et qui a pu avoir dans ces changements et quels sont ceux qu'il y a dans justement le passage vers un aspect, enfin une gestion par les SFN de ces aspects-là. Tu as abordé l'aspect notamment lié au fait qu'on d'impliquer, enfin le rôle de l'expert, mais est-ce qu'il y a d'autres choses aussi?
Les freins, alors donc juste pour replacer un peu ce que je connais, parce que évidemment c'est limité, ça va être principalement la vision des collectivités territoriales sur ces ouvrages et un peu moins celle des maîtrises d'ouvrage, mais il y a plein de freins en fait. En fait, il y a celle que, enfin celui que j'ai nommé, enfin les deux que j'ai déjà nommés, c'est-à-dire la gestion patrimoniale de ces ouvrages, c'est-à-dire la capacité des collectivités à connaître un patrimoine qui est décentralisé, donc qui n'est plus comme le réseau, mais même la connaissance des réseaux n'est même pas évidente. Mais ce que je veux dire, c'est que comme ces ouvrages sont décentralisés, ils sont ponctuels, ils sont sur des espaces qui ne sont pas forcément automatiquement connus. En plus, ils deviennent multifonctionnels, donc on va avoir des freins aussi pour la gestion quotidienne. Donc, est-ce que ce sont les espaces verts? Est-ce que ce sont les services de propreté? Est-ce que ce sont les services assainissement qui ont en charge la gestion de ces ouvrages? Tout ça représente ces superpositions, ces discussions, c'est la négociation dans les collectivités, mais ça représente en réalité des coûts. Et ça implique en fait que ces ouvrages-là évoluent. Par exemple, si on dévolue la gestion patrimoniale d'un ouvrage végétalisé à, je sais pas, à la propreté qui ne connaît pas la gestion différenciée ou le fonctionnement de cet ouvrage, il est possible qu'elle fasse une tonte à blanc sur un ouvrage. J'ai vu ça dans les collectivités. Après, il y a aussi la force en fait de l'expertise hydraulique, on va dire. Enfin, en tout cas, en milieu très urbain, la gestion de l'eau est pensée relativement au réseau. Et il y a peut-être aussi une sorte de scepticisme vis-à-vis de l'efficacité réelle des milieux, enfin des écosystèmes aquatiques. C'est-à-dire que moi, enfin, j'ai beaucoup entendu, en gros, ce qui est vraiment considéré, c'est les volumes des ouvrages. Mais de scepticisme de la part parfois comment dire, de gens qui historiquement travaillent dans l'assainissement et qui se retrouvent à devoir gérer des ouvrages de gestion des eaux pluviales conçues à partir de principes de la génie écologique. Après, ça, c'est quelque chose qui évolue beaucoup en ce moment parce que enfin, il y a des renouvellements dans les services et puis il y a une nouvelle génération qui arrive et qui est formée à ces questions-là. Voilà.
Merci Emma. Juste pour les deux questions qui sont là, puis après on va passer à la seconde présentation, celle de Marie-Lou Dufournet. Mais juste du coup, la première question de Thierry, je ne sais pas si tu l'as vu, sur la rémunération des habitants dans la cogestion. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé ou non?
J'en ai jamais entendu parler concrètement. En fait, les
D'accord.
habitants sont pas trop. Enfin, tous les ouvrages sont considérés comme étant techniques. Et moi, ce que je perçois, c'est que les aménagements sont. Les, pardon, les habitants sont pas très investis, sont pas très invités à penser avec la collectivité ces ouvrages-là.
D'accord. Après, la question de Fabrice Rodriguez, tu as un petit peu répondu, mais c'est justement la connaissance, est-ce qu'on connaît mieux les ouvrages techniques et génétiques ou les ouvrages végétalisés, donc pour la gestion des eaux pluviales?
S'il s'agit de techniques génie civil réseau, on connaît évidemment mieux les réseaux, mais s'il s'agit des techniques type bassin enterré, je pense que c'est à peu près identique en fait. Sur cet aspect-là, la Seine-Saint-Denis en fait a fait un énorme travail parce que eux ont produit énormément de bassins enterrés type vraiment excroissance de réseau dans les années 90 et en ont perdu la connaissance. Et donc, eux ont promu des ouvrages multifonctionnels, c'est-à-dire en surface de la ville, pas forcément basés sur des principes d'ingénierie écologique, mais en tout cas intégrés au paysage urbain. Donc, ça pouvait être des places minérales qui servaient de bassin de retenue, justement pour garder en fait la connaissance de leur patrimoine, parce que étant en surface, il était automatiquement géré, etc. Donc, je suis pas sûre qu'il y ait une différence de connaissance et peut-être même que les ouvrages végétalisés sont mieux connus, mais ils sont très peu nombreux.
Merci beaucoup en tout cas. De toute façon, si vous avez d'autres questions, ça pourra revenir pour le débat après.